Merci. Je me suis fait un peu abuser parce que je croyais arriver dans un cénacle à caractère académique, mais j'ai l'impression qu'on travaille un peu comme on travaille à la commission, avec des faits, des choses très opérationnelles. Mais je vais quand même essayer de vous délivrer le message que je voulais vous délivrer en m'appuyant non pas sur mon étiquette commission, parce qu'on a très peu de compétences dans ce domaine, même si on a participé à la préparation du document qui vient d'être préparé, mais plutôt en tant qu'ancien de l'OTAN, du ministère français de la Défense, de tous les cénacles dans ce domaine. Alors, le titre « Sécurité collective et environnement » suggère d'intéressantes ambiguïtés. Notre approche de la sécurité tient-elle compte de l'environnement ? Le papier que vient présenter Helga Schmidt, « Changement climatique et sécurité internationale » pourrait indiquer une problématique finalement totalement inversée, qui est l'environnement, sa dégradation, notre façon d'approcher le problème, tiennent-ils compte des impératifs de sécurité ? Nul doute non plus que les politiques en matière d'armement font partie des questions qui ne sont pas neutres en matière dans ce domaine, le nucléaire, le chimique, le bactériologique, etc. Alors deux approches permettent peut-être de simplifier le problème. Premièrement, celle qui part de l'environnement et aboutit à ses conséquences sur la sécurité. Le texte de Javier Solana de mars 2008 s'appuie sur cette logique. Il ne dit rien sur les doctrines et les moyens de la guerre européenne sur l'environnement. Deuxième moyen, la sécurité et la défense que nous tentons d'édifier prennent-ils en compte l'environnement ? Alors il faut être un peu brutal pour avoir une chance d'avancer. Une certaine sécurité ne prend pas en charge l'environnement. Une autre en fait son critère principal. Exemple, la sécurité ou la sûreté nucléaire, celle des centrales et du traitement des combustibles, la sécurité des composants synthétiques sur la santé illustre bien le premier cas. La sécurité militaire n'en parle pas, ou très peu. Plus embarrassante encore, une certaine conception de la sécurité des approvisionnements, par exemple en énergie, en bois, en métaux précieux, parce qu'ils participent d'une économie mondiale qui pille les ressources naturelles, favorise le travail forcé, je pense aux mines d'or, ou accroît la pollution, je pense au pétrole, joue contre la préservation de l'environnement. Mener en janvier une grande politique de réduction du CO2 et en février une politique de sécurité d'approvisionnement sans faille en énergie combustible est une posture troublante. C'est peut-être à ce genre de carrefour que réside l'originalité du paradigme européen sur la sécurité et sur la défense. Paradoxalement, c'est son passif historique, institutionnel et politique qui lui impose ce format et qui lui offre une opportunité décisive. Alors, passif historique d'abord. Le continent est sorti ravagé des deux derniers conflits mondiaux. La proximité physique de l'anéantissement, la perception de l'enfer, je choisis mes mots, ont obligé non seulement à opérer des rapprochements entre adversaires continentaux, elles ont suggéré l'oblitération du recours à la violence comme outil de résolution des crises. Le rapport à l'environnement, qui est en filigrane, passe par des mots différents, éviter les destructions, survivre, etc., mais ce rapport est direct. Peu de travaux sur les dégâts environnementaux de la Seconde Guerre mondiale ont été faits, mais ils furent colossaux, on le sait tous. Ils portent conceptuellement l'idée difficile que la défense n'est potentiellement plus compatible avec la sécurité, avec l'environnement. Elle l'anéantit. On a là toute la logique des pacifistes des années 60, qui affirmaient, par exemple, plutôt rouge que mort. Mais on y reviendra. Passif institutionnel ensuite. Réel ou exagéré, provocante ou réactive, la menace soviétique a repris, dans la dialectique européenne de la guerre et de la paix, le rôle du Troisième Reich. Y répondre, à exiger une alliance, investi grosso modo d'un mandat de front, mais qui serait resté classique, force contre force, s'il ne s'était pas greffé sur elle deux caractéristiques intéressantes. Première, celle de la dissuasion, ou de la guerre interdite par la terreur partagée. Deuxième caractéristique, celle de la détente, qui organise un rapport d'intensité réciproque entre l'effort de défense, par définition apocalyptique, et celui du compromis avec l'adversaire. C'est le rapport Armel, les futures tâches de l'Alliance de 1967, qui expriment, à mon sens, le mieux cette doctrine devenue doctrine officielle de l'Alliance. Dans cette institution, les Européens se coagulent littéralement, saisis par l'exceptionnelle dangerosité du conflit possible, saisis implicitement, sans jamais le dire avec les mots d'aujourd'hui, par la conscience que ce conflit ferait s'effondrer le cadre environnemental dans son ensemble, nous compris. Exceptionnel, cette situation tendue a conduit les États millénaires, des puissances petites ou grandes, des acteurs politiques à un abandon de souveraineté en matière de défense qui est sans précédent dans l'histoire. On pourrait parler de ce qu'ont pensé certains ou de ce qu'ont fait les Français sur ce point, mais c'est un autre sujet. l'Alliance Atlantique par le ciment existentiel que lui confère la perception commune, juste ou arrangée de la menace, fut sans doute par la quasi-disparition d'une série de politiques nationales du champ diplomatique et militaire, un formidable réducteur des contentieux continentaux. Dans le vide, l'allumette s'éteint. C'est une approche qui relativise les vertus supposées du chantier européen. L'Alliance, comme les communautés européennes, aujourd'hui l'Union, se sont constamment disputées le rôle décisif sur le maintien de la paix continentale de 49 à 91, et même aujourd'hui. On retrouve l'argument partout, mais leurs auteurs refusent d'en découdre. Il n'y a pas débat, il n'y en a jamais eu, et d'ailleurs, il vaut mieux oublier cette affaire. Pas tout à fait. Qui a sauvé l'environnement européen pendant un demi-siècle ? L'OTAN ou les communautés ? Ceux qui me connaissent un peu seront surpris d'entendre qu'à mon sens, c'est l'Alliance qui a assuré la paix. Une paix extrêmement dangereuse, certes, pleine de provocations, de malentendus, de manœuvres du complexe militaro-industriel, ou plus simplement des nécessités de croissance économique d'un certain Occident. Je vous rappelle, il y avait 10 millions de chômeurs aux États-Unis en 1939, il y en avait zéro en 1942. On connaît tout ça. On connaît le missile Gap, les surévaluations ubuesques de la puissance soviétique autour de la période réganienne, mais oublions tout ça aussi, la riposte flexible, graduée, massive, les avatars du MAD ou des scénarios de First Strike sont du passé. On l'a échappé belle, comme l'affirment certains acteurs politiques de cette époque qui parlent aujourd'hui. Mais c'est là qu'intervient le troisième passif, le passif politique du paradigme européen. On est frappé par la discipline doctrinale qui a caractérisé les alliés européens pendant cette guerre froide. Aujourd'hui, quand un ministre européen dit que le refus de ratification d'un traité par un partenaire serait ennuyeux, il s'exprime personnellement ou au nom de son pays, mais il met sur la table des alternatives plus ou moins cordiales mais réelles. La dissuasion nucléaire, par contraste, a établi un ordre sans faille entre alliés pendant 50 ans. Des pays traditionnellement pacifiques, attachés à la terre, à un mode de vie, à des traditions fortes de respect, par exemple, de l'environnement, ont endossé l'armement nucléaire et les doctrines d'emploi qui vont avec, ont siégé au comité des plans nucléaires, sans sourciller, presque sans débat. Je me rappelle certains exercices à l'OTAN où le nucléaire était là, le nucléaire, latent. Des officiers, des civils danois, norvégiens, américains, belges, participaient sans difficulté à des scénarios de pré-apocalypse de bonne foi et sans état d'âme. La situation était tellement étrange qu'il est arrivé quelquefois que le nucléaire cesse d'être...